Bonjour à chacun, chacune. Alors, ce matin, j'aimerais revenir ensemble sur la question de l'amour fraternel. 1 Thessaloniciens 4, on l'a vu, a beaucoup, beaucoup de thématiques. On va en conserver une seule, celle de l'amour fraternel en question. Et ce matin, on va comparer l'église de Thessalonique avec l'église de Corinthe. Et puis on va réfléchir, nous l'église d'Arles, à laquelle des deux on ressemble le plus en matière d'amour fraternel? Est-ce qu'on ressemble plutôt à celle de Thessalonique? Est-ce qu'on ressemble plutôt à celle de Corinthe? Est-ce qu'on est pire que Corinthe? Est-ce qu'on est mieux que Thessalonique? Est-ce qu'on est un peu entre les deux? Mais c'est un sujet extrêmement important, majeur. Et on va le voir ensemble ce matin. Alors, d'abord on va regarder un petit peu ce qu'il en est de l'amour chez les Thessaloniciens. Et l'on va reprendre un petit peu tous les versets qui en parlent dans cette épître, Thessaloniciens chapitre 1. Le premier verset qui en parle, c'est le verset 3, où Paul dit à propos des Thessaloniciens qu'il se rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Alors, si ça avait été projeté, j'aurais mis en rouge trois mots. Votre foi, votre amour, votre espérance. Et peut-être pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs de la Bible, hop, ces trois mots évoquent quelque chose, un verset très connu. Lequel? 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Paul dit, et voici, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous avons dans ce verset et réuni ces trois éléments, la foi, l'espérance et l'amour. Et Paul se rappelle du travail de l'amour des Thessaloniciens. Ensuite, nous avons au verset suivant, le verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu. Cette fois-ci, c'est l'amour de Dieu pour les Thessaloniciens. Parce que comme il leur dira plus tard, vous avez appris vous-même à vous aimer, vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Oui, ils ont reçu l'amour de Dieu, ils sont bien-aimés de Dieu. Et je peux aimer les autres parce que je suis aimé de Dieu. 1 Jean 4, verset 9-10, je le lis pour vous, dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Le Seigneur nous a aimés en mourant sur la croix, en pardonnant nos péchés. Il nous a aimés le premier. Et les Thessaloniciens, ils se savent aimés de Dieu. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu pour eux, qui leur a pardonné leur péché, qui a fait grâce pour leurs fautes. Ensuite, nous poursuivons au chapitre 2 et nous voyons là un exemple de l'amour, nous l'avons déjà cité, c'est l'amour de Paul et de ses collaborateurs lorsqu'ils sont allés évangéliser les Thessaloniciens. On le voit au verset 7 et 8, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous voyez cette abondance de mots qui parlent de l'amour? Plein de douceur, tendre soin, vive affection, notre propre vie devenue chère. Nous voyons encore cet amour au verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur. Quelle belle expression. On a été séparés de corps, hein, physiquement, c'est vrai, mais pas de cœur. Moi, j'aimerais savoir si dans l'Église, une fois qu'on quitte ces lieux et qu'on est séparés de corps les uns des autres, est-ce qu'on est aussi séparés de cœur? Alors, on peut dire non, mais ça reste à prouver. Est-ce que notre amour fraternel est à la hauteur de ce que le Seigneur nous invite à avoir? C'est une question. Séparés de corps, mais non de cœur. Si nous ne sommes pas séparés de cœur, comment est-ce que nous le manifestons?
Avec la joie de se revoir tous les dimanches matin, de s'embrasser, de dire bonjour.
Voilà une réponse. Et dans la semaine? Parce que c'est bien d'attendre le dimanche d'après. Mais est-ce qu'on peut prier pour les autres? Prier pour les autres, oui. Passer un petit coup de téléphone de temps en temps quand on sait ce que un tel est malade, etc. De corps, mais non de cœur. On poursuit. Au chapitre 3, donc effectivement, le verset 17 terminé, comme Claude le disait, on est heureux de se retrouver ensemble. Le verset 17 terminé en disant, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. C'est vif. Au chapitre 3, au verset 6, Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, charité, hein, selon les versions, c'est charité, mais c'est le mot qui veut dire amour fraternel. On l'a dit hier, comment va ta foi, la semaine dernière, comment va ta foi? Paul s'informait de la foi, mais Timothée ne l'informe pas que de la foi, il n'oublie pas ce qui va avec la foi, c'est l'amour. Il n'a pas seulement donné des bonnes nouvelles de leur foi, mais il a donné des bonnes nouvelles de leur amour. Alors on pourrait se poser la question, bon, comment va ma foi? Ma foi, ça va. Bon. Mais comment va ton amour pour les autres? Timothée a donné des bonnes nouvelles de l'amour que les Thessaloniciens avaient les uns pour les autres. Néanmoins, malgré ces bonnes nouvelles, au verset 12, ils sont exhortés à la chose suivante, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Oui, on peut déjà aimer l'autre, mais il dit que le Seigneur fasse croître et abonder. Je ne vais pas en rester là où je suis. Pourtant, ils ont déjà de l'amour les uns pour les autres, mais Paul les exhorte à le faire encore plus grandir. Et dans ce sens, nous voyons au chapitre 4, que nous avons lu tout à l'heure, verset 1, « Reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. » Ils le font. « Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Pas en rester là où on est. Et pourtant, ils le font. Il dit, on vous conjure. Vous voyez la force de marcher de progrès en progrès. Il va donner quelques exemples, quelques sujets de progrès. Et puis, il en vient à l'amour fraternel. C'est au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse tout un pataquès. Non. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous, envers tous les frères de la Macédoine entière. Oui, est-ce que c'est une église où les gens s'aiment? Oui. Et néanmoins, il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Pas mal cette église de Thessalonique, hein? Bon, On va continuer les versets qui parlent de cela et nous arrivons au chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. J'espère que cette fois-ci, vos sens vont être en alerte sur les mots pour repérer lesquels on trouve. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Alors ça commence en disant au verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce verset? Oui, la foi, l'espérance et l'amour. Là, nous avons cité les trois versets de toute la Bible qui réunissent ces trois mots. Corinthiens. Et puis, deux fois dans les Thessaloniciens. C'est dans les Thessaloniciens qu'on trouve deux fois. Et regardez bien, cette cuirasse, c'est quoi? Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Et pour casque l'espérance. Maintenant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je ne revais pas bien l'amour, je n'ai pas bien revêtu ma cuirasse. Je suis vulnérable. Une église où l'amour fraternel n'est pas à la hauteur de ce que ça doit être, c'est une église qui est vulnérable, à qui il manque un morceau de sa cuirasse. Nous poursuivons au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Vous voyez l'amour en action ? Consoler, avertir, supporter, user de patience, être en paix. Que personne, alors il dit, prenez garde, verset 15, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ouais. Voilà l'amour en action. Alors, ces Thessaloniciens qui manifestement marchaient déjà dans l'amour, mais que Paul invite à abonder toujours plus dans l'amour, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont rester sur leur bonne lancée et progresser, ou est-ce qu'ils vont dégringoler? Alors, quelques rapides versets dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, puisque la deuxième épître aux Thessaloniciens va nous informer de ce qu'ils sont devenus un peu plus tard. Eh bien, regardez en 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 3, il dit « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. » Ah, il se réjouit, Paul. Hein. « Comme cela est juste, » donc il dit à juste titre, tiens, pourquoi ?« Parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Est-ce qu'ils ont répondu à l'appel de Paul ? Paul leur disait, vous vous aimez déjà beaucoup, progressez encore. Est-ce qu'ils ont répondu? Oui. Ils ont encore fait progresser l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Et c'est ainsi, au verset 12, que Paul peut dire, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Oui. Le fait que vous soyez des chrétiens et l'œuvre que Dieu fait dans les vies, eh bien, chez vous, Thessaloniciens, vous rendez gloire par votre vie, par votre attitude, vous rendez gloire à Dieu. Votre vie donne gloire à Dieu. Et encore une expression au chapitre 3, très belle expression, chapitre 3, verset 4-5, qui dit « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » Ah oui, Paul, il sait à qui il a affaire. Hein? Et regardez cette très belle expression, le verset 5, « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Et vers la quoi ? Vers la patience de Christ. Oui. Alors, maintenant, vous voulez qu'on regarde Corinthe ? Oh là là ! Là, on a vu une église où les gens manifestement savent que Dieu les a profondément aimés et vont aimer en retour et vont progresser dans cet amour. Et quand on se renseigne sur l'état de leur foi et de leur amour, on a des bonnes nouvelles. Oui, ils ont revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et de l'espérance. Ils n'ont pas oublié l'amour au milieu. Corinthiens, allez, prenons l'épître aux Corinthiens, et ça commence très fort. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalité au milieu de vous. Ça sent pas bon déjà là. Ça sent pas bon du point de vue de l'amour. On voit une église où il y a des rivalités, des divisions, où on n'a pas les mêmes sentiments, la même pensée, on n'est pas unis, on est désunis. Bon, au chapitre 3, Paul enfonce le clou. Il dit, moi frère, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Au verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Qu'est-ce qu'on trouve de la jalousie, des disputes? Au chapitre 4, verset 14. Bon, Paul leur fait beaucoup de reproches, hein, et il leur dit « C'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. » Chapitre 6, on voit qu'ils ont des procès entre eux, dans l'église. Chapitre 6, il dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Au verset 4, il dit, si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge, je le dis à votre honte. Verset 6, mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les infidèles? C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ah non, chacun est sur ses droits là. C'est pas grave, hein, c'est quelqu'un de l'église, l'amour fraternel. Alors là, moi je vais lui coller un procès au derrière, tu vas voir, ça va vite faire. Hein. Bam! C'est chaud, Corinthe, hein? Ça continue. Au chapitre 8, verset 12, à propos d'un autre sujet, il dit « En péchant de la sorte contre les frères. » En blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Au chapitre 11, 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Voilà. Vous vous réunissez en église, ce n'est même pas pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Comme vous voyez, vous devenez pire en sortant qu'en entrant. Il dit d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, des clans, des gens qui ne se parlent pas, des gens qui ne veulent pas manger à la même table. Si bien qu'après, il leur donne l'image du corps. Il est obligé de leur dire au chapitre 12, verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux qui paraissent les plus méprisables. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si Paul est obligé de leur dire ça, c'est parce que dans cette église, oh ben lui on n'en a pas besoin. Oh lui, alors lui c'est un gros nul, faible, méprisable. Oh ben alors lui, tu vois pas d'où il vient, tu connais pas sa famille, tu connais pas son ethnie. Oula, c'est craignos. Est-il étonnant que Paul en arrive et que ce soit à l'église de Corinthe que ce chapitre 13 que tout le monde connaît, 1 Corinthiens 13, ce chapitre majestueux sur l'amour, est-il étonnant que ce soit à eux que ce soit adressé ? À Thessalonique, il a dit « Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive. » Eh bien, il n'aura pas écrit. Par contre, aux Corinthiens, il dit recherchez l'amour. Chapitre 14, recherchez l'amour. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, ah oui la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Qu'il dirige nos cœurs vers la patience de Christ, avons-nous dit tout à l'heure. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Ailleurs, il est dit, l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe. L'amour couvre toutes les fautes. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Corinthiens, ils étaient mal en point. Regardez, on va le voir à propos de choses un petit peu plus pratiques, 1 Corinthiens 16. Voilà que Timothée, qui était un des bras droits de l'apôtre Paul, Paul a prévu de l'envoyer à Corinthe. Mais Paul, il sait qu'elle n'est de vie percée, Corinthe. Et Timothée est d'ailleurs très jeune. Ailleurs, on dit que personne ne méprise ta jeunesse. Regardez les recommandations qu'il est obligé de faire. Au verset 10, il dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi l'œuvre du Seigneur, que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix. Vous voyez, quand on est obligé de donner des recommandations aux gens comme ça, hein, écoutez, s'il vient, hein, qu'il soit sans crainte, hein, ça serait bien. Hein. Que personne ne le méprise, et puis accompagnez-le en paix. Un petit peu plus loin, regardez au verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez, vous aussi, de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, donc ce Stéphanas dont il était question, de Fortunatus, d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Voilà une recommandation. Il est obligé de recommander en disant, en fait, Stéphanas, ayez de la déférence, vous aussi, envers de tels hommes. Sachez apprécier de tels hommes. Alors, comment est-ce que les Corinthiens, ils ont fini? En tout cas, poursuivis. Fini, je ne sais pas, mais poursuivis. Tout à l'heure, on est allé voir la deuxième épître des Thessaloniciens. On va aller voir la deuxième épître aux Corinthiens pour voir si ça s'est amélioré, leur histoire. Regardons en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2, verset 4. Alors, j'avais oublié quand même un verset fondamental, revenons en arrière, 1 Corinthiens 16. C'est là où l'apôtre Paul termine, 1 Corinthiens 16, ça pourrait être notre devise pour ce matin. C'est le verset 14, 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. C'est la conclusion de l'apôtre Paul pour les Corinthiens. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Vont-ils entendre? En 2 Corinthiens, au chapitre 4, Paul, chapitre 2 Corinthiens 2, pardon, 2 Corinthiens 2, verset 4, il dit, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Or, l'amour, c'est pas dire... C'est pas le béni oui qui dit oui à tout. Hein. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on les dit. Hein. Et il les dit, Paul. Et c'est justement par amour qu'il dit ce qui ne va pas. Et vous voyez l'attitude dans laquelle il est envers les Corinthiens? Grande affliction, le cœur angoissé, beaucoup de larmes. C'est la joie. Hein. Au chapitre 6, 2 Corinthiens 6, verset 11, il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. C'est poignant, hein? Et nous, notre cœur, il est grand ouvert pour vous. Mais le problème, c'est que le vôtre ne l'est pas. Tout petit peu plus loin, chapitre 7, verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Et il termine au chapitre 12. C'est pas très réjouissant, au chapitre 12, au verset 20, de Corinthiens 12, 20. Paul prévoit de nouveau se rendre à Corinthe. Et il dit... Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Un petit peu plus loin, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Voyez, à Corinthe, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Paul leur a écrit en disant qu'il y a des divisions, il y a des disputes, il y a des querelles parmi vous. Il leur a écrit 1 Corinthiens 13, ce chapitre sur l'amour. Et il dit, le problème c'est que je crains vraiment qu'à mon arrivée, rien n'ait changé et que de nouveau, qu'est-ce que je trouve ? Des querelles, des animosités, des rivalités, des troubles, des histoires. Alors, on a pris le temps de voir au travers de nombreux versets l'état spirituel de deux églises sur le sujet de l'amour fraternel. On a Thessalonique qui sont au top et qui vont toujours plus au top. Puis on a Corinthe. Il y a des réalités. Moi, je pose la question, à quoi est-ce que ressemble notre église ici sur Arles ? Moi, je vous livre mon sentiment de pasteur. Hein. Je crois qu'on est entre les deux. Mais je crois qu'on a un défaut d'amour. Des tensions, des querelles, des histoires, des gens qui n'aiment pas trop se parler. Il y a tout ça, ça fait des années que je l'observe. Le progrès, pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Et je crois, frères et sœurs, que on a un problème de cuirasse. On aurait envie que notre église grandisse, qu'elle se fortifie, qu'elle marche pour le Seigneur. Et c'est un bon désir. Je crois qu'on a la cuirasse de la foi. On a le casque de l'espérance du salut. Mais je ne suis pas bien sûr qu'on ait revêtu comme il faut la cuirasse de l'amour. Un Thessalonicien dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Et si on ne le revêt pas, ben nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles. C'est une faille fatale, d'abord pour le chrétien à titre individuel. Le chrétien, de façon personnelle, quand je ne me revêt pas de la cuirasse de l'amour, j'ai une faille fatale dans laquelle Satan va s'engouffrer. Mais c'est aussi une faille pour l'Église dans son ensemble, et là je parle vraiment d'une globalité. À mon sens, on a une faille à ce niveau-là. Et je crois que nous avons besoin de nous remettre en question, tous, pour combler cette faille, pour revêtir cette cuirasse. Nous avons besoin de faire de l'amour une priorité. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. En 1 Jean 4, regardez ces versets sévères. Nous avons lu que la moitié tout à l'heure, les parties qui n'étaient pas sévères. On a lu les parties où c'était l'amour de Dieu pour nous. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 11, bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et le verset 20 dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oui, c'est une priorité. Alors, Aimer, c'est vrai, c'est être patient. Oh, pas une patience. Vous savez, il y a une bonne patience et une mauvaise patience. Il y a la mauvaise patience où on accumule, ça monte, vous voyez. On endosse. Mais c'est une patience qui fait naître de l'irritation, de l'amertume. C'est une patience qui nous ronge. Ah oui, on peut être patient avec les gens. Mais on sent quand cette patience nous ronge. Cette patience-là, ce n'est pas la patience de Christ. Quand il dit que le Seigneur tourne nos cœurs vers la patience de Christ, ce n'est pas une patience qui va nous ronger. Ça me ronge d'être patient. Et il y a un jour, ça va. Non ? Ça, ce n'est pas la patience de Christ. L'amour est patient. Est-ce que j'ai une patience d'amour ? C'est la question. Ou est-ce que j'ai une patience tout court ? Hein, la patience tout court. Mais une patience jointe à l'amour. Parce que j'aime l'autre. Parce que j'ai cette intention de l'aimer. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une intention. Ça se décide. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent, a dit Jésus. Bien sûr, il y a des gens qui sont pénibles. Il a dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres. Quand quelqu'un m'agace, ça ne veut pas dire que je ne vais pas forcément lui dire quelque chose, mais je ferais mieux d'aller prier avant, hein, pour être sûr que lorsque je vais aller lui parler, je sois aussi dans l'amour. C'est-à-dire, j'ai envie de lui dire deux, trois trucs quand même, mais je ne voudrais pas le faire avant d'avoir revêtu la cuirasse de l'amour. En Éphésiens, hein, il dit, professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Oui, il y a des choses à dire. Des fois, il y a des choses à dire. Mais d'abord, il faut que je m'assure que j'ai l'amour qui va avec. C'est pour ça que Paul termine avec les Corinthiens avec ce beau verset, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Ce matin, je souhaite vraiment que nous puissions nous interroger à titre individuel, à titre collectif dans l'Église. Est-ce que j'ai des choses à régler sur la question de l'amour ? Est-ce qu'il y a des animosités ? Est-ce qu'il y a des gens que j'ai du mal à sentir ? Et ça végète et ça reste, et ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait trois ans, ça fait quatre ans, et ça bouge pas. Ben, c'est pas normal. Là, on a un défaut de cuirasse. Et on ne peut pas être bien dans sa vie chrétienne. On ne peut pas connaître la joie du Saint-Esprit quand l'amour est en défaut. C'est pas possible. Et du coup, on vit une vie chrétienne, on n'est pas vraiment épanoui pleinement. C'est pas vrai. On n'a pas la paix. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie, la patience, l'amour. La patience aussi. Est-ce que, peut-être moi j'ai pas de problème avec les autres, hein, peut-être que j'ai pas des animosités, tout ça, mais est-ce que, comme les Thessaloniciens, je réponds présent lorsque le Seigneur me dit que cet amour abonde de plus en plus ? Ou est-ce que je dis, oh, j'en ai déjà pas mal, c'est déjà suffisant ? Est-ce que je me contente du niveau d'amour fraternel que j'ai ? Ou est-ce que je dis non ? C'est fort les mots que Paul emploie. Il dit, nous vous conjurons au nom du Seigneur de faire abonder toujours plus l'amour que vous avez les uns pour les autres. Parce que quand l'amour ne prend pas le chemin de la croissance, il prend le chemin de l'amoindrissement. C'est pas évident. cette question, l'amour fraternel en question, mais c'est fondamental. Et ce matin, j'avais à cœur, à travers cette épître aux Thessaloniciens, que vraiment nous puissions avoir deux aperçus, Thessalonique et Corinthe. Où est-ce qu'on est ? Et que nous prenions conscience que si nous avons un défaut d'amour, eh bien nous n'avons pas de cuirasse. La cuirasse, elle ne nous revêt pas, elle ne nous protège pas, elle ne nous accompagne pas. Nous prêtons le flanc à l'ennemi et ça va nous être fatal. Alors que nous puissions nous mettre devant le Seigneur, le laisser nous sonder, confesser peut-être, là où nous savons que nous manquons d'amour, de patience, de prévenance réciproque, comme dit Romains 12, d'affection. Que nous puissions lui demander pardon et que nous puissions nous mettre au travail. Paul se rappelle sans cesse le travail de leur amour aux Thessaloniciens. Prions. Seigneur, tu as voulu que vraiment exprimer dans ta parole que l'amour est au centre de tout. La marque même à laquelle on peut reconnaître un vrai disciple fidèle de Jésus ou non. Tu nous rappelles que on ne peut pas se faire d'illusions sur notre piété en disant que j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon frère. C'est pas possible. Et tu coupes court à cette illusion. Parce que parfois, Seigneur, nous nous contentons d'avoir la foi, l'espérance, notre petite relation avec toi, mais lorsque nous sommes confrontés à l'amour pour les autres, et bien sûr envers ceux qu'on n'aime pas naturellement, alors là, Seigneur, on s'arrête, on se bloque et on ne veut pas aller plus loin. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que nous avons une cuirasse à revêtir, la cuirasse certes de la foi, mais la cuirasse de l'amour. Cuirasse de la foi et de l'amour. Seigneur, que lorsqu'on me demande comment va ma foi, en même temps on puisse me demander comment va mon amour pour les autres. Et qu'on puisse répondre, donner de bonnes nouvelles de ma foi et de mon amour. Seigneur, nous croyons que tu veux faire une œuvre en nous, dans l'église d'Arles, pour nous faire progresser à cet égard. Tu vois qu'à différents niveaux, nous sommes une église où nous manquons d'amour. Et nous voulons te demander tous ensemble, Seigneur, que toi-même tu fasses abonder, progresser notre amour les uns pour les autres. Que tu nous apprennes toi-même à être patient, en dirigeant nos cœurs vers la patience de Christ. Que tu nous apprennes à nous supporter les uns les autres avec amour, à nous édifier, à nous exhorter, à nous encourager, à nous consoler, à nous avertir aussi avec amour, afin que ton nom soit glorifié parmi nous. Que nous puissions te permettre d'examiner nos cœurs et nous mettre à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen.